intéressant.
Alors j'ai le très grand plaisir de me retrouver à cette table avec Henri Peña-Ruiz, que j'ai eu le plaisir de côtoyer il y a de nombreuses années, et de lire bien sûr dans les années 80, je crois, fin des années 80, au Centre international d'études pédagogiques, au conseil d'administration du CIEP, et aussi d'ailleurs à l'agence Air France de la rue de Rennes, où nous allions chercher nos billets d'avion. Parce qu'Henri Peña-Ruiz est un grand voyageur, invité dans le monde entier, mais aussi un grand voyageur qui traverse les frontières disciplinaires pour ramener ses disciplines au sein du giron de la mer de toutes les sciences, la philosophie. Donc, comme vous le savez, comme vous le comprenez, Henri Peña-Ruiz est un professeur d'unidiversité et mondialement connu pour ses publications et notamment sur la laïcité. Son dernier livre est celui-ci, Qu'est-ce que la solidarité, avec un point d'interrogation bien sûr, le cœur, sous-titré Le cœur qui pense, dont les droits d'auteur iront d'ailleurs, tu me le confirmes,
à la reconstruction d'Haïti.
Voilà, alors comme vous l'avez compris aussi, Henri Peña-Ruiz n'a pas besoin d'être animé, ni même peut-être modéré, parce que c'est quelqu'un de modéré dans ses déclarations. Je me bornerai seulement à lire ceci. Pour moi, l'idéal, le voici. L'instruction gratuite et obligatoire. L'enseignement primaire obligatoire, c'est le droit de l'enfant qui, ne vous y trompez pas, est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de l'État. Je veux, je le déclare, la liberté de l'enseignement, mais je veux la surveillance de l'État, et comme je veux cette surveillance effective, je veux l'État laïque, exclusivement laïque. L'honorable monsieur Guizot l'a dit avant moi. En matière d'enseignement, l'État n'est pas et ne peut être autre chose que laïque. Je veux donc la liberté de l'enseignement sous la surveillance de l'État. Alors, comme vous l'avez compris, ce n'est pas moi qui ai écrit ces belles paroles. C'est Victor Hugo, mon maître, le 15 janvier 1850. Henri, je te laisse la parole.
Merci beaucoup Francis, c'est un plaisir effectivement de se retrouver après presque 25 ou 30 ans. Nous étions professeurs ensemble au Centre international d'études pédagogiques, et je dois dire, puisque les petites madeleines de Proust fonctionnent admirablement en toutes circonstances de la vie, comme vous le savez, le fait que tu m'aies rappelé le CIEP m'a rappelé que le premier texte que j'ai écrit sur la laïcité, je l'ai écrit pour une petite revue du CIEP qui s'appelait Les Amis de Sèvres. Le CIEP était implanté à Sèvres, et on m'avait chargé de coordonner un numéro de revue sur la laïcité dont je ne savais pas le traître mot. Et comme j'aime bien les paris, j'étais à l'époque complètement concentré, moi l'homme abstrait, sur la question de l'injustice sociale. Et donc la laïcité, je la respirais comme on respire, comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir, comme on respire l'air sans savoir qu'on respire l'air. Et on découvre qu'on respirait l'air le jour où il n'y a plus d'air, comme par exemple actuellement dans certains lieux de l'université de Tunis, où après avoir respiré l'air de la laïcité et de la liberté pour les femmes, pour l'enseignement, on découvre d'un seul coup que cet air fait défaut. Lorsque des salafistes demandent l'installation de salles de prière, exigent des femmes qu'elles se dissimulent les cheveux parce qu'elles n'ont pas, elles, le droit de montrer leurs cheveux ni de montrer leur corps. Elles sont des objets et non pas des sujets. Alors effectivement, je ne me rendais pas compte à l'époque que la laïcité est un problème. Et quand on m'a dit « faudrait faire un article sur un numéro de revue », j'ai accepté. Je ne savais pas le traître mot de l'idée laïque. Donc j'ai accepté, et juste le lendemain, je suis allé au Quartier Latin, me balader dans les librairies, au PUF, etc. J'ai acheté quelques livres, et là, j'ai commencé à lire, et j'ai été stupéfait de voir que ceux qui parlaient de la laïcité, c'était pour la plupart des cas, des religieux hostiles à la laïcité. Et là, j'ai dit, il faut approfondir cette affaire-là. Et j'ai donc dirigé un numéro de revue qui s'appelle « Laïcité, le sens d'un idéal ». Je ne sais pas si tu te souviens, oui, Francis. Et j'y ai écrit j'ai osé mon premier article. C'était dans les années 70, quelque chose comme ça. Et chemin faisant. Alors qu'à l'époque, des copains me disaient « Mais tu vas pas t'occuper de laïcité, c'est une vieille lune, c'est un idéal de la Troisième République, on n'en cause plus. » J'ai dit « Si, ça me paraît intéressant, cette question du rapport entre religion et politique. » Et après mon premier article pour le CIEP, j'ai fait un petit livre pour Flammarion qui s'appelait « Laïcité ». Puis après, j'ai travaillé là-dessus. Ça devait être un détour et non pas « ad vitam aeternam » la laïcité qui devait occuper, d'ailleurs ça ne m'a pas occupé là du tout à l'éternam, puisque je viens de publier deux livres sur la question plutôt de la justice sociale. J'ai donc écrit peu à peu et composé ce qui devait faire l'objet de ma thèse sur travaux, un livre qui s'appelle « Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité » paru au PUF. Voilà, donc pardonnez-moi de cette petite référence biographique, je n'aime pas faire ça, mais c'est pas par narcissisme, c'est la petite Madeleine Proustienne dans le contexte qui est le nôtre. Alors, je voudrais très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut laisser de l'attente à la discussion, je présente un petit peu mes excuses à l'auditoire de m'être un peu emporté tout à l'heure, d'autant que j'ai toujours eu des relations extrêmement cordiales avec Michel Fievorka. Nous avions même été interviewés par un journaliste de l'Humanité et nous avions dialogué très cordialement. Nous n'avons pas tout à fait la même conception de la laïcité, mais ça n'empêche pas de dialoguer. Là, j'ai sorti un tout petit peu de mes gonds lorsqu'il a été suggéré que ma laïcité abstraite, c'est tellement facile. Hein. Les sociologues de la religion ont l'art de vous dire que vous êtes dans l'abstraction, et qu'eux sont dans la science, ce qui leur donne une légitimité, parce qu'ils mettent la scientificité de leur côté, et vous êtes l'idéologue du coup. Alors moi, j'assume, je ne suis pas dans la science. Quand il s'agit de savoir sur la base de quel principe on décide de vivre ensemble, c'est faux de dire qu'on est dans la science. La science, c'est autre chose, c'est fondamental. Mais je n'aurai jamais la prétention de dire que je peux fonder scientifiquement la laïcité. Je peux peut-être la fonder rationnellement. Je peux peut-être, par exemple, poser la question, comment des êtres divers peuvent-ils vivre ensemble le mieux possible? Il y a parmi vous des croyants des diverses religions, des athées et des agnostiques. Je décline ici les trois grands types de positions spirituelles. Les agnostiques suspendent leur jugement sur l'au-delà. Agnosco, ça vient du latin, je ne sais pas. Et je ne me prononce pas. Mais c'est pas parce que je ne me prononce pas sur l'existence de l'au-delà ou d'une puissance supérieure et transcendante que je m'abstiens de me prononcer sur d'autres choses. Je sais que pour respecter l'humanité, il faut la traiter comme une fin en soi. Là, je me prononce. Kant n'est pas agnostique. Il est agnostique sur le plan métaphysique, mais il n'est pas agnostique sur le plan éthique. Agis de telle façon que tu considères l'humanité dans la personne d'autrui comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Là, il se prononce. Donc là, il n'est pas agnostique. Donc, ne laissons pas dire que les agnostiques sont nécessairement dépourvus de tout repère moraux. Ce que dit par exemple Monseigneur Rauco Varela, le cardinal de Madrid, qui dit que la laïcité, l'agnosticisme, ça conduit, et confondant d'ailleurs tout, il amalgame la laïcité à l'athéisme militant, l'athéisme et l'agnosticisme dans le même fourre-tout relativiste, et il dit que ça dessaisit les jeunes gens de leurs repères moraux. Non, parce que si les croyants avaient eu tant de repères moraux, comment se passe-t-il, dit Bayle, dans ses pensées sur la comète, que les religieux aient pu commettre d'aussi épouvantables crimes que les bûchers de l'Inquisition? Donc, que la religion soit la seule à forger la moralité, c'est quelque chose évidemment qui ne va pas de soi. Certes, elle peut l'inspirer. C'est ce qui conduit Victor Hugo, qui était croyant, mais aussi profondément laïque, à donner dans Les Misérables un rôle majeur à un évêque, celui qui rend les chandeliers et qui donne en plus les couverts d'argent, et qui traite Jean Valjean comme un homme et non pas comme l'ancien bagnard. C'est donc quasiment un propos existentialiste. Il délie l'homme de son être social provisoire. Bon, donc effectivement, c'est un croyant, Victor Hugo, qui forge la laïcité. Donc déjà, laïcité, ça ne veut pas dire athéisme. Victor Hugo disait « Je veux l'État chez elle et je veux l'État chez lui et l'Église chez elle. Pardonnez-moi, je suis un peu fatigué. Donc effectivement, il théorise la séparation. Je ne sais pas si c'est un principe abstrait, mais c'est en tout cas un principe très clair selon lequel la collusion de César et de Dieu n'a produit que des atrocités. Et c'est une collision doublement intéressée. L'Église demande au bras séculier du pouvoir temporel de l'aider. C'est la théorie des deux glaives. Saint Jean Chrysostome, par exemple, explique que l'Église dispose de deux glaives. Le glaive spirituel, l'excommunication, et le glaive temporel qui traverse les chairs, comme l'ont vu les cathares. Donc effectivement, la théorie des deux glaives permet à l'Église d'obtenir du pouvoir temporel des privilèges publics dans l'espace public. Et en retour, l'Église sanctifie le pouvoir temporel, théorie du sacre par exemple. Toute puissance vient de Dieu, disait une épître de Paul. Et, omnis potestas nisi ad Deo. Il n'est de puissance sinon venant de Dieu. Donc on voit très bien ce que le couple infernal César, Dieu, a pu donner dans l'histoire. Persécution, légitimation de la monarchie, etc. Et un autre couple va surgir, c'est le couple qui va produire sa propre séparation comme étant effectivement une affaire essentielle. C'est le couple entre Marianne, qui n'est plus César. Marianne, c'est l'allégorie de la République, du peuple souverain qui se donne à lui-même sa propre loi. La seule coiffe que porte Marianne, c'est le bonnet phrygien de l'esclave affranchi. Et dans ce bonnet phrygien de l'esclave affranchi que porte Marianne, il y a un symbole universel, la libération, l'émancipation, l'affranchissement. Le bonnet phrygien, c'est le symbole de la liberté. Et donc, effectivement, Marianne, qui unit des croyants des diverses religions, il y en a sans doute parmi vous, des athées, qui ne croient pas en Dieu, mais qui savent se battre pour des valeurs, comme Guy Môquet, jeune communiste assassiné par les Allemands, qui se bat pour la liberté de son pays, et puis des agnostiques qui ne savent pas si Dieu existe ou pas, mais qui savent, par exemple, que le respect de l'humanité est un principe de moralité. Donc, on va partir de ça pour exposer très simplement la laïcité. Nous sommes une assemblée constituante. Le peuple vient de nous déléguer pour définir les principes fondamentaux de notre vivre ensemble. Assemblée constituante, pas encore législative, puisqu'il ne s'agit pas de faire des lois, mais de définir les principes sur la base desquels on fera les lois. Alors nous sommes réunis, nous sommes en assemblée constituante, rue Cabanis. Il y a parmi nous des croyants des religions ABC, des EF, on peut continuer, des agnostiques et des athées. Première question. Serait-il légitime que les croyants imposent leurs croyances aux athées? Réponse négative. Souvenons-nous, j'entreprends une déduction simple, abstraite, de ce principe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Premier article. Les hommes, aujourd'hui on dirait plutôt les êtres humains, parce que ça voudrait dire que c'est le sens générique et non pas sexuel ou sexiste de homme. Bon, les êtres humains, les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Premier article. Rédigé par la Constituante, et publié le 26 août 1789, après de longues discussions. Le mot important, c'est « naisse ». Ça veut dire que la liberté de conscience, qui fait que ma conscience est maîtresse d'elle-même, comme le disait déjà Marc Aurèle, philosophe stoïcien, la conscience est une citadelle intérieure, imprenable. Donc, effectivement, nous sommes libres, tous, de croire en Dieu, de ne pas croire en Dieu, de ne pas admettre de croyance, c'est non pas la liberté religieuse qui est en jeu, c'est la liberté de la conscience humaine dont la liberté religieuse n'est qu'une modalité plus particulière. Déjà, ceux qui utilisent le concept de liberté religieuse utilisent un concept particulier. Or, quand on énonce un principe, ça c'est mon goût de l'abstraction,
il faut toujours s'élever au plus général. Or, le plus général, ce n'est pas la liberté religieuse, qui n'est qu'un cas particulier du principe le plus général qui est la liberté de conscience. Donc, notre Assemblée constituante, à la question « Les croyants doivent-ils imposer leur croyance aux athées et aux agnostiques ?» va répondre évidemment négativement et va exhiber un principe. Un principe, rendez compte, un principe, princeps, ce qui est premier par rapport à la conduite de l'action. Un principe qui est la liberté de conscience. Bien sûr qu'il faut que le principe soit abstrait. Je regrette que Michel vienne voir Cassapala parce que je lui aurais dit pourquoi je défends des principes abstraits. D'où vient le mot abstrait ? Du latin abstractum, tiré hors de. Quand je vois Spartacus, esclave enchaîné qui doit tuer ses copains pour le plaisir des patriciens romains libres, je regarde Spartacus comme un homme libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je le regarde comme un homme libre? Ça veut dire que je le vois comme un homme libre parce que la liberté sied à tout homme et doit être sa condition d'existence, mais en l'occurrence, l'esclavage qui est concret, qui est social, rature la liberté. Apprendre à voir dans tout esclave un homme libre, c'est se tirer hors du réel concret pour s'élever à l'abstraction qui voit dans l'homme un être libre. Et c'est très important, c'est très subversif. Dit, là je serais sartrien, Sartre dit, il y a deux façons de vivre sa condition d'esclave, en homme libre et en esclave. Spartacus vit sa condition d'homme libre, sa condition d'esclave en homme libre, c'est-à-dire en la rejetant. S'il avait intériorisé l'idée que, ma foi, il est esclave parce qu'il est inférieur aux autres, qu'il est mieux pour lui d'être conduit par des hommes dits libres, ça voudrait dire qu'il serait doublement esclave, dans sa tête et dans la réalité sociale des chaînes qui pèsent sur ses membres. Donc, énoncer la liberté comme un principe abstrait, ça veut dire qu'on énonce la liberté comme un principe qu'on tire hors de toutes les conditions qui la raturent. Et en ce sens, l'abstraction du principe est absolument nécessaire, puisque lorsqu'une femme est soumise à son mari par tradition, et qu'on lui dit « vous êtes soumise par violence sociale et patriarcale, mais vous êtes libre, vous devez l'être. Il y a en vous une liberté, il faut que vous appreniez à vivre votre condition comme celle d'une femme libre, dont la liberté est raturée par la domination machiste. » Alors certes, la liberté est un principe abstrait, mais par cette abstraction même, elle est un principe émancipateur. Donc le premier principe qui va permettre à des êtres humains de coexister fraternellement dans une même société, dans une même res publica, une même chose publique, c'est la liberté de conscience que l'école publique va fortifier par l'autonomie de jugement, c'est-à-dire la culture du vrai et du juste et du raisonnement bien maîtrisé, qui fait qu'on se donne à soi-même ses pensées au lieu de les recevoir d'autrui. Être libre, un être autonome, c'est-à-dire étymologiquement qui se donne à lui-même ses propres pensées. La culture de la laïcité est une culture de la liberté que rien ne saurait nuancer ni abstraire des contextes, que rien ne saurait détruire, et de l'autonomie. Donc, nous allons adopter le premier principe de notre constitution républicaine, liberté de conscience. Ceux d'entre nous qui croient en Dieu sont libres de croire. Mais attention, ils ne doivent pas confondre leur liberté avec le fait d'imposer leur croyance au reste de la société. La religion n'engage que les croyants. C'est une phrase simple qui esquisse déjà le concept de laïcité. Mais il faudra ajouter tout aussitôt, l'athéisme n'engage que les athées. Et dès lors, l'athée et le croyant se retrouvent tous les deux sur un même pied d'égalité. La puissance publique qui va les unir, Marianne, l'allégorie de la République, devra-t-elle donner davantage aux uns qu'aux autres? Réponse républicaine, laïque, sociale, non. La République reconnaît strictement les mêmes droits aux croyants, aux athées et aux agnostiques. Elle ne se borne pas à reconnaître simplement la liberté de croire ou de ne pas croire, mais elle considère que elle, puissance publique, étant de tous, ne peut pas être de quelques-uns, ne peut pas être de certains. Là, une distinction philosophique va nous servir, c'est la distinction du particulier et de l'universel. Est particulier ce qui est propre à certains. Si par exemple il y a parmi vous des croyants, eh bien je dirais que la croyance religieuse étant propre à une partie d'entre vous, est particulière. S'il y a parmi vous des athées, je dirais que l'athéisme étant propre à une autre partie d'entre vous, est particulière. Or, la puissance publique se doit de construire le vivre ensemble des croyants et des athées et des agnostiques. Donc, elle ne peut pas faire dépendre les définitions des règles du vivre ensemble de la croyance particulière des uns ou des autres. C'est pour ça qu'elle doit s'abstraire de la diversité des convictions spirituelles pour construire le vivre ensemble sur des principes qui soient acceptables par tous, croyants, athées et agnostiques, qui soient donc universels. La liberté de conscience est bonne pour le croyant autant que pour l'athée. Cela est si vrai que lorsqu'un croyant vit dans un état où il y a une religion officielle, par exemple j'étais au Danemark, où c'était l'église luthérienne d'État qui jouissait de privilèges publics. Et à la fin de mon exposé, c'était les universitaires danois, un universitaire s'est levé, français impeccable, et il a dit « C'est la France qui a raison. Regardez, moi je suis catholique, mais ici je suis un citoyen de seconde zone. » Parce que ce sont les luthériens qui, étant de l'église luthérienne d'État, jouissent de privilèges financiers, publics, de reconnaissance, etc., que moi, je n'ai pas. Moi, je suis cantonné dans la sphère privée. Donc, il y a inégalité de traitement entre le catholique et le protestant. Alors, c'est extraordinaire, parce que le catholique au Danemark découvre le bienfait de la laïcité, alors que le catholique en Espagne, où il jouit de ces privilèges dont jouissent les protestants luthériens au Danemark, et contre la laïcité. Où est l'erreur? La laïcité n'est donc pas, contrairement à ce qu'on dit, l'idéal des athées ou l'idéal des agnostiques. D'ailleurs, la Monnaie, catholique libérale partisan de la séparation de l'Église et de l'État, ami de Victor Hugo, et Victor Hugo lui-même était catholique, mais en même temps, il considérait que les privilèges publics de l'Église étaient d'un autre âge. Ils étaient donc profondément laïcs. On peut être catholique et laïque, ce qui ne veut pas dire, laïque ne veut pas dire athée, contrairement au contresens couramment répandu, ça veut dire partisan d'une stricte égalité de traitement des options spirituelles. C'est pourquoi tout à l'heure j'insistais dans mon intervention sur le fait que l'égalité républicaine, c'est pas seulement l'égalité des religions. Imaginons que les francs-maçons demandent le financement public de temples maçonniques, ou les libres penseurs athées demandent le financement public de maisons de la libre pensée. Après tout, pourquoi pas? Et on va communautariser l'argent public. C'est-à-dire qu'à force d'alimenter le particulier, on va oublier le général, c'est-à-dire l'universel. Si tout l'argent public, surtout en période de crise, est dépensé pour alimenter les différents communautarismes, qu'est-ce qui reste pour les hôpitaux publics, pour l'école publique, pour le logement social qui est évoqué tout à l'heure? Rien. Donc, il y a aussi dans la laïcité l'idée que ce qui est universel, c'est-à-dire commun aux athées, aux croyants, aux agnostiques, doit être nourri par l'universel. L'argent public, quelle est son origine? L'impôt payé par tous les citoyens. C'est-à-dire l'impôt payé par des croyants, des athées et des agnostiques. C'est extrêmement clair. Si l'origine de l'argent public est universelle, il y a un principe simple de droit qui est que la destination de l'argent public doit également être universelle. C'est la raison pour laquelle l'argent public ne doit en aucun cas financer des écoles privées religieuses. Pourquoi ne finance-t-on pas des écoles privées fondées par des francs-maçons ou par des libres penseurs où il y aurait des cours d'humanisme athée? Ça permettrait, avec l'argent payé par les croyants, de financer la diffusion de l'athéisme. Mais alors les croyants vont dire, ah non, quand même, on ne va pas financer la diffusion de l'athéisme avec nos impôts. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, aurait dit un certain monsieur. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec le financement rendu possible par la loi Debré d'écoles privées religieuses? Ça veut dire qu'on finance la diffusion de la foi religieuse avec l'argent payé par des athées et des agnostiques. Donc, la laïcité, c'est la liberté de conscience. Et si on discute dans notre assemblée constituante et qu'on pose la question, est-il légitime de donner des privilèges de reconnaissance publique, un statut de droit public, des privilèges financiers à une option particulière que certains d'entre vous ont, qu'elle soit celle de l'athéisme ou qu'elle soit celle de la religion? Évidemment, tout le monde tombera, je suppose, d'accord pour dire non. L'argent public ne doit aller qu'à ce qui est à vocation universelle.